Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous voilà dans un autre chapitre. Nous voilà dans notre catéchisme de l'Église catholique sur l'article « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Et donc c'est au numéro 422, article 422, et je prends le sous-titre qui est ici « La bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils ». La bonne nouvelle, c'est finalement ce qui traduit le mot « évangile » que l'on a dans la liturgie. Du coup, je profite tout de suite pour dire, quand nous parlons de l'évangile, notre tendance est de dire, par exemple, l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu, ce qui, en toute rigueur, n'est pas très juste, parce que, si je ne me trompe pas, il faudrait dire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean ou selon saint Matthieu. Et dans cette formulation, le mot évangile, qui signifie donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean, la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement l'annonce faite par le Christ, l'annonce du royaume qui est au milieu de nous, l'annonce de sa venue, l'annonce du salut qui est donné, mais la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même, en réalité.
Oui, tout à fait. Le mot évangile est devenu tellement commun que, dans la mentalité de la plupart, dès qu'on dit évangile, on pense à un texte écrit. Le texte écrit de Marc, par exemple, qui est cité là, le texte de Matthieu, le texte de Luc, le texte de Jean, mais en fait c'est beaucoup plus, puisque c'est une bonne nouvelle. « E » veut dire « bien » en grec, et ensuite c'est la nouvelle qui est annoncée, « Evangelion », et il y a cette annonce que c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. C'est beaucoup plus qu'un simple Messie. Les Écritures de la Première Alliance annonçaient quelqu'un qui devait venir, un autre prophète, à la manière de Moïse dans Deutéronome 18, mais ça n'était qu'un prophète. Là, il s'agit carrément du Fils de Dieu. Donc c'est une excellente nouvelle, je pourrais presque dire. On ne peut pas mieux avoir envoyé son Fils, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, et qui nous comble d'une certaine manière. Sa visite déjà est stupéfiante, qu'il nous ait visité, et qu'il nous ait fait cet honneur finalement par rapport à l'homme déchu dont on a beaucoup parlé dans les derniers moments de nos rencontres. Et cet homme méritait-il un tel honneur? Je crois qu'il faut toujours reprendre les choses en disant, mais Dieu a condescendu dans le sens noble du terme, la condescendance divine, c'est-à-dire Dieu s'est abaissé sur sa petite créature. Le mot condescendance a fini par prendre une tournure quelque peu péjorative, parce que ceux qui l'utilisent souvent sont un peu au-dessus des autres et le font sentir. Là, il s'agit vraiment d'un Dieu qui s'abaisse, c'est la kénose, c'est l'abaissement de Jésus-Christ à notre condition humaine. Il a visité son peuple et il accomplit les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Et c'est non seulement une condescendance vis-à-vis de nous, au sens noble du terme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui remplit ce qu'il a promis. Il tient ses promesses. Il l'a fait au-delà de toute attente, précise le catéchisme, puisqu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Il y a quelque chose qui nous comble par sa présence et qui suffit à elle-même. Nous avons l'honneur d'être ceux que Dieu a visités et nous devons commencer par la louange. La première des choses qui vient au cœur devant cette bonne nouvelle, c'est la louange, c'est-à-dire remercier sans cesse. L'Eucharistie, d'ailleurs, c'est le nom de l'Eucharistie. L'Eucharistie a cette signification de rendre grâce de la venue permanente. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », dit-il dans la fin de l'Évangile. Et là, nous avons avec tout cela une richesse donc qui est en même temps bien stipulée par la citation des Galates, où saint Paul, dans ce seul lieu, parle de la Vierge Marie, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils né d'une femme, il ne dit même pas son prénom, mais nous savons par les autres évangiles que c'est la Vierge Marie, c'est le seul passage où Paul l'évoque, afin de racheter les sujets de la loi. Donc voilà le but, nous sommes tributaires du péché, il faut en quelque sorte faire une réparation des peines dues au péché, et cela s'appelle en langage métaphorique un rachat, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et ça, c'est très beau parce qu'on voit le projet de Dieu dans sa plénitude, non seulement une réparation par rapport aux peines consécutives, aux fautes que nous commettons, mais en même temps, une nouvelle dignité, celle de l'adoption filiale. Nous devenons des enfants adoptés. Nous pouvons dire que nous sommes fils dans le Fils, comme disait un grand théologien du XIXe siècle, Chibène, je crois, et qui a été repris par le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes. Nous devenons fils dans le Fils, nous sommes donc configurés au Fils, et nous pouvons dire que nous recevons une adoption filiale, toute gratuite. Nous sommes christo-conformés par la venue du Fils, dans la mesure où nous acceptons, évidemment, cette bonne nouvelle, que nous acceptons le baptême. La finale de Marc ne peut pas être séparée du début de cette bonne nouvelle, puisque Marc n'hésite pas à nous rappeler les conditions de cette appartenance à Jésus. « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et voici les signes, et c'est là où on nous dit que les apôtres vont avoir des éléments qui vont, d'une certaine manière, donner de la crédibilité à leur annonce.
Cette histoire, et on peut bien parler d'une histoire. Mais
c'est une histoire, c'est inséré dans l'histoire. D'ailleurs, le paragraphe suivant nous le dit, qu'il y a des noms historiques. Pilate n'est pas apparu dans le credo d'une manière inepte. Oui.
Cette histoire, donc, nous ramène à bien voir que la foi, notre foi, si nous appuyons sur le catéchisme, comme nous le faisons au fil de nos entretiens, si nous aimons l'Écriture, tu as la Bible devant toi et tu cherches ces paroles, ces phrases qui nous nourrissent, il reste que tout ça serait lettre morte, si je puis dire, si nous ne pensions pas la foi avec ce qu'elle est, cette dimension qui est celle de la rencontre, de la relation. Quand on dit la bonne nouvelle est Jésus-Christ, ou bien Dieu nous a comblés par sa présence, a fait l'honneur de venir parmi nous, c'est bien la rencontre. Et c'est, d'un point de vue spirituel, c'est ce chemin de relation, de rencontre que nous faisons au cours de notre vie croyante. Nous grandissons dans la foi en acceptant d'aller plus loin dans cette rencontre. Je suis toujours frappé, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs dans nos entretiens, que ceux qui ont été élevés dans la foi de l'Église, ceux qui connaissent le catéchisme, puis qui un jour disent « j'ai rencontré le Christ », alors qu'ils vont à la messe depuis tout le temps, par exemple. Je suis toujours frappé par ça, et je pense important de rappeler ici cette idée de bonne nouvelle. Elle met devant nous Dieu comme celui qui vient à notre rencontre, celui qui se donne en son Fils. Elle nous conduit à intégrer bien cette présence dans notre histoire, une histoire, notre histoire. Tout cela est très, 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 très charnel, au sens noble du terme. Ça fait partie de notre existence. Ce ne sont pas des choses qui ne passeraient que par le mental.
Oui. De fait, quand on rencontre des moines et des moniales, ils le disent bien, ils ont déjà consacré toute leur vie à Dieu, ils ont adhéré à Jésus-Christ, et puis il y a des moments où il y a quelque chose qui s'illumine, c'est-à-dire un verset d'un psaume, tout à coup prend un relief extraordinaire et les transforme complètement. C'est toujours Dieu qui parle, mais c'est vrai que parfois les accents par lesquels il nous adresse la parole deviennent tout à coup... font rentrer en résonance quelque chose en nous. Nous les avons déjà entendus d'une certaine manière. C'est un peu comme quand, dans Saint Jean, la première épître de Saint Jean, on dit que le commandement est à la fois nouveau et ancien. Ancien parce qu'on l'a déjà entendu depuis longtemps. Si on est fidèle à l'Église tous les dimanches, ce n'est pas optionnel, on est invité à y être, donc on entend la parole de Dieu très régulièrement, très régulièrement, et puis à un moment, c'est la rencontre, effectivement. Dieu se rend présent, il vient faire sa demeure en nous, il rend réel ce contact qu'il est déjà, mais à un autre niveau de notre être, c'est-à-dire nous vivons parfois en superficie, ou nous vivons parfois pas assez en profondeur, ou Dieu tout simplement ne fait pas signe aussi, il est libre, il peut tout à coup tendre la main à l'un et pas à l'autre. L'un est pris, l'autre est laissé, comme dit à un moment l'Évangile. C'est très mystérieux. Pourquoi tout à coup quelqu'un a cette rencontre foudroyante avec le Seigneur alors qu'il ne s'y attendait pas du tout? Souvenez-vous la conversion d'André Frossard qui rentre dans une église et puis tout d'un coup c'est l'éblouissement. Et ça a été très soudain, alors qu'il n'avait rien, lui, en préparation. Il n'avait même pas cette connaissance que nous avons par le fait que nous appartenons parfois à une famille chrétienne, que nous allons régulièrement à la messe, et qu'il y a déjà des éléments de préparation dans nos cœurs qui fait que le jour où cela advient, cela a un contenu.
Pour conclure peut-être ce petit temps, j'avoue que cette phrase résonne de manière particulière à la fin de l'article 422. Il l'a fait au-delà de toute attente, réaliser sa promesse en venant parmi nous. Il l'a fait au-delà de toute attente. Et finalement, notre foi, c'est de se préparer à l'au-delà de toute attente, l'au-delà de notre attente. Quand je disais tout à l'heure qu'à un moment on rencontre le Christ, on prend en conscience de... Il est venu en notre chair et il s'est rendu présent parmi nous. Finalement, ça dépasse l'attente que nous avions. À chaque fois, la foi, c'est savoir se laisser étonner au-delà de notre attente.
Merci.